Et donc, peut-être que vous vous dites, peut-être André aurait pu laisser son tour pour la prédication. Je l'ai pensé tant de fois aussi. Norbert me l'a proposé. Et puis j'ai pensé à Ludovic qui avait repris le travail. Et j'ai pensé à Noah qui avait repris le collège. Et je me suis dit que c'était juste de continuer et de persévérer. D'autant plus que il m'est arrivé, je voudrais donner un témoignage avant d'apporter la parole de Dieu, parce que ce témoignage, j'espère, sera étayera le message. Et en plus, il va dans le sens de ce que l'on vient d'entendre. Alors que une nuit, je ne dormais pas, je repassais tout ça dans mon cœur, dans mes pensées. En fait, il m'est arrivé un drôle de toc, on va dire ça comme ça. C'est que je pensais au petit vaisseau sanguin, vous savez, qui a lâché dans la tête de Manon, cette rupture d'anévrisme. Et ça sortait pas de ma tête, de mes pensées. Et en fait, j'en voyais partout. Je suis désolé de dire ça comme ça, mais j'en voyais quand je me regardais dans la glace, partout. Je savais que c'était quelque chose qui allait passer, que c'était un traumatisme momentané, mais quand même, ça me faisait réfléchir et ça m'empêchait de dormir. Et c'est alors que le Seigneur, dans sa grande, grande bonté, a commencé à me consoler. Et en me consolant, je pense qu'il veut aussi consoler beaucoup de cœurs ce matin. Pas forcément qu'ils vivent l'épreuve que nous vivons, mais nous en avons tous. Et quelquefois bien difficile à vivre. Il s'y est pris parce que, d'une manière tout à fait bizarre, en fait, je pensais au vaisseau sanguin. Et comme je vous l'ai dit, ce mot tournait dans ma tête. Alors, je ne veux pas dire le Seigneur m'a dit que, mais la pensée était suffisamment forte pour que je m'y arrête. Et cette pensée, c'était, mais André, qu'est-ce que tu sais sur le mot vaisseau? Réfléchis un peu. Ben, c'est un conduit, c'est quelque chose qui achemine. Oui, mais encore. Oui, ben, qu'est-ce que tu pourrais dire sur ce mot-là? Ben, je sais pas, vaisseau spatial, vaisseau de guerre. Ah, ben, tu approches. Et le Seigneur me montrait que s'il y avait l'infiniment petit, comme ce vaisseau sanguin si minuscule, qui cause tant de dégâts, il y avait aussi ce qui est infiniment grand, parce que le Seigneur me disait, regarde à la croix, et France vient de nous le rappeler, regarde à la croix, regarde à la croix. Alors je vous cherchais à savoir le rapport qu'il y avait entre le vaisseau et la croix, et j'ai compris que le Seigneur voulait me rappeler. Cette puissance de salut, cette puissance d'amour, cette puissance du sang de Jésus qui a coulé à la croix. Et alors que je méditais sur ces choses, j'ai pensé à un film que j'avais vu quand j'étais jeune. Je devais avoir un ou 2 ans de plus que Manon. Certains d'entre vous, peut-être tout le monde l'a vu, c'est un film bien connu, c'est le film de Ben-Hur. Et ce film, je l'ai vu, j'étais très jeune, on venait de se marier avec Lilou. S'est marié à 20 ans. Et à la fin de ce film, il y a la croix du Seigneur. Je sais pas si vous vous souvenez. Et on voit que les éléments sont déchaînés. Il y a un orage. Et le soldat romain perce le côté du Seigneur. Et de ce côté percé coule du sang et de l'eau. Et dans cet orage, s'est formé un petit ruisseau qui coule et qui arrive à un endroit où il y a deux pauvres femmes, deux pauvres lépreuses qui sont la maman et la sœur du héros du film, je ne vais pas plus loin. Et quand ces femmes sont lépreuses et quand ce sang arrive jusqu'à elles, voilà qu'elles guérissent. Voilà que la lèpre, si laide, si cette maladie terrible qui fait du mal, qui défigure, qui isole, eh bien, voilà ces femmes qui retrouvent la santé, la puissance du sang de l'agneau. Et tout en méditant sur ce film, sur ces choses, je réalisais la puissance de la croix, la puissance de ce sang qui coulait, qui voulait me consoler, qui voulait guérir, qui voulait encore apporter la vie sur cette terre. Cela a été pour moi une grande consolation, un début de consolation, mais quand même une consolation, et comme si le Seigneur me disait « tu es cabossé, mais il y en a d'autres qui sont cabossés autour de toi ». Et dans ton église aussi, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui peut-être ne le disent pas vraiment, mais qui ont mal. Et rappelle-leur qu'ils peuvent être au bénéfice, comme ces deux lépreuses, de la puissance de ce sang, pour tous leurs problèmes. Et ça a été dit ce matin de mille et une manières, mais je voulais le répéter encore dans ce témoignage. Alors, peut-être que le Seigneur te parle ce matin et te montre que si ton péché est trop lourd à porter, si ta maladie est trop lourde à porter, si ton addiction, que ce soit de l'alcool, de la drogue ou peu importe, est trop lourde à porter, alors il y a une puissance supérieure à tout qui peut venir couler de la croix et t'apporter non seulement un bienfait, mais la guérison totale. Nous le croyons, nous le croyons. Nous ne le voyons pas toujours, mais nous le croyons. Et alors je vais avoir besoin de toi, Sylvie, parce que je n'ai pas de clé, je n'ai pas de PowerPoint, mais nous avons Sylvie. Alors Sylvie, si tu veux bien nous mettre le chapitre donc dont a parlé David. C'est Luc 7. C'est vrai que ce chapitre commence par le centurion, il continue par la veuve de Naïn, dont le fils ressuscite, et se termine par ce merveilleux passage de cette femme. Certains diront de mauvaise vie, c'est une paraphrase qui en dit long, une pécheresse, mais moi, je dirais que c'est une sainte femme. Luc, chapitre 7. Et nous allons exprès démarrer le passage un peu avant, au verset 31. Je vais le lire avec vous sur l'écran. Alors, ce n'est pas vraiment ça. La 7:31. Sinon, je vous le lis. Bon, le temps que ça s'affiche, je crois qu'on a la même version, c'est la version seconde. Donc, je commence. Verset 31. C'est Jésus qui parle. À qui donc comparerai-je les hommes de cette génération et à qui ressemblent-ils? Ils ressemblent aux enfants assis dans la place publique et qui, se parlant les uns aux autres, disent: nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Car Jean-Baptiste est venu ne mangeant pas de pain, ne buvant pas de vin. Et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Or, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière au pied de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle les mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfums. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Maître, parle, » répondit-il. un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. « Lequel l'aimera le plus ?» Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle, elle a mouillé de ses larmes et les a essuyées avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. » Mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ?» Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Alors avant de parler de cette femme, peut-être que vous vous dites comment ça se fait qu'André a commencé sa lecture au verset 31 et par cette question de Jésus, « À qui comparerais-je les hommes de cette génération ?» Et à qui ressemble-t-il ? Je pense que la génération de Jésus, c'est la même que toutes les générations, et c'est la même que la nôtre. C'est-à-dire que ces hommes, ces êtres humains, de la génération de Jésus, c'est nous. Et cette comparaison que fait Jésus, eh bien, elle nous concerne. Alors, comment nous concerne-t-elle ? Je ne sais pas si c'est une parabole que Jésus a inventée, cette histoire d'enfant qui joue sur la place du marché, ou si c'est réellement ce qu'il a vu, un peu comme la Samaritaine, vous savez, quand Jésus était fatigué, quand les disciples étaient allés acheter du pain, et puis il était là, sur la margelle du puits. Peut-être une scène semblable dans un autre village, on ne sait pas. Mais on peut imaginer ces enfants qui n'avaient pas de Nintendo ni de voiture téléguidée pour jouer, mais qui étaient experts dans leur jeu à eux, c'est-à-dire c'était des acteurs de théâtre, et qui s'amusaient à mimer des scènes d'adultes. Et la première scène qu'ils avaient choisi de mimer devant leurs camarades qui étaient assis là, c'était un mariage. Et cette scène consistait pour eux à prendre probablement des petits bambous en guise de flûte et de siffler un air qu'on chante dans tous les mariages à l'époque. Et ces enfants devaient s'attendre à ce que les autres qui étaient assis se mettent à danser. Ils l'avaient peut-être pratiqué plusieurs fois, mais les autres, ils étaient plutôt paresseux, plutôt nonchalants, plutôt têtus, voire boudeurs. Et ils se disent peut-être en eux-mêmes, on a peut-être visé un peu haut, on va prendre une autre scène, on va prendre un enterrement, ce sera plus calme. Et donc les voilà qui se mettent à chanter des complaintes. Et ces complaintes se portaient probablement sur le défunt imaginaire. Et normalement, quand on fait des complaintes en Orient, les pleureurs prennent la suite, les pleureuses. Elles sont payées pour ça. Bon, c'est un peu hypocrite, mais c'est comme ça. Il y avait des pleureuses qui prenaient le relais de ceux qui disaient des complaintes. Mais là, pas plus de succès. Leurs petits copains ne bronchent pas, ne bougent pas. Et Jésus se sert de cette histoire vraie ou parabole pour dire, mais écoutez-moi, Jean-Baptiste vient et il prêche la repentance. Il prêche la pensée de Dieu concernant le péché. Qui réagit à ça ? Les publicains, les prostituées, les gens de mauvaise vie, eux, ils se font baptiser par Jean-Baptiste. Mais les pharisiens, vous, personne. Vous êtes là, les bras croisés, dédaigneux. et méprisant. Moi, je viens, c'est Jésus qui parle, avec la musique de la grâce. Vous avez vu toutes ces guérisons. Vous avez vu tout ce qui a été fait. Tous les miracles. Vous avez entendu l'amour de Dieu que je vous prêche. Que Dieu est bon. Il veut vous sauver. Qui y croit? Les publicains? Oui. Ces femmes de mauvaise vie? Oui. Mais vous, pharisiens, vous êtes là, les bras croisés, dédaigneux, méprisants. Et il termine sa petite parabole avec ce verset un peu énigmatique. Et la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est la sagesse? Un peu plus haut, on voit que la sagesse, c'est Dieu. Et les enfants, ce sont ceux qui croient. Ce sont justement ces publicains et ces gens pécheurs. Ce sont les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont repentants. Parce qu'ils s'amendent. Parce qu'ils descendent au bord du Jourdain et qui disent « Je suis pécheur, Dieu, aie pitié de moi ». Ils ne connaissent pas encore la croix comme nous la connaissons. Ils ne connaissent pas encore le sacrifice du Seigneur Jésus, mais leur conscience est travaillée. En fait, Dieu est en train de les préparer à recevoir la musique de la grâce, Jésus lui-même et son message d'amour. Alors, pourquoi il y a le mot justifié? En général, enfin, nous, on l'emploie, doctrinalement parlant, c'est Dieu qui nous justifie. Il nous rend juste. Mais là, ce sont ces gens-là qui justifient Dieu. En fait, ils ne rendent pas Dieu juste. Dieu est juste de toute éternité et pour l'éternité. Mais ils disent que ce que Dieu fait, de ce que Dieu dit, est juste. Ils rendent justice à Dieu de ce que, oui, Dieu est saint, et oui, je suis pécheur, et oui, j'ai besoin de me repentir. En cela, il justifie Dieu. Alors, avant de passer à cette petite histoire, peut-être on pourrait, nous qui sommes dans un temps où on parle d'évangélisation, on pourrait et on doit réfléchir. Je compare un peu l'évangélisation à ces deux rails de chemin de fer, vous savez, ces rails parallèles. Il y en a un, et il faut qu'il y soit, c'est la repentance. C'est un rail indispensable, il faut que les âmes se rendent compte qu'elles sont loin de Dieu. Bien sûr, c'est le Saint-Esprit qui le fait, c'est lui qui convainc. Mais nous devons, nous, dans nos prières et dans nos évangélisations, en avoir conscience que sans repentance, c'est difficile de parler de salut. C'est un rail. Et l'autre rail, parallèle, tout aussi indispensable pour que la locomotive du salut ne déraille pas, si je peux m'exprimer ainsi, eh bien c'est la foi en Jésus. C'est la foi et c'est l'amour pour Jésus. L'amour qui reconnaît en Jésus le Sauveur et qui reconnaît en Jésus le Seigneur. Avec ces deux rails, le salut est garanti. C'est bien de se le rappeler. Et c'est bien parce que ça construit nos évangélisations aux uns et aux autres. Et si ce n'est pas dans nos paroles, c'est en tout cas dans nos prières. J'ai trouvé deux versions littérales qui parlent de ce passage et qui mettent une petite conjonction de coordination. Je crois que ça s'appelle comme ça, mais où est donc Nicar? Ça me rappelle quelque chose. Or, un pharisien pria Jésus. Et une autre version, et un pharisien pria Jésus de manger. Et ce petit mot, cette petite conjonction de coordination nous parle qu'il y a un lien étroit entre l'histoire de cette femme et de ce pharisien et ce qui vient d'être prêché par Jésus par rapport à la parabole des enfants. Oui, ce qui va suivre est une démonstration de ce que Jésus vient de prêcher. Le pharisien, c'est celui qui refuse, et la femme, c'est celle qui accepte. Pourquoi ce pharisien invite-t-il Jésus? Ce n'est pas dit. On peut penser que La meilleure des suppositions, c'est qu'il était curieux de connaître Jésus. Mais on peut penser aussi qu'il avait soif. Il avait soif de notoriété. Et s'il pouvait profiter de celle de Jésus, ce serait bien. Parce que la suite du récit nous montre qu'il n'a rien compris, cet homme. Il n'a absolument rien compris de qui est Jésus et de ce qu'il y a dans le cœur de Jésus. Il doute et voire méprise. Mais Jésus, lui, toujours en quête de pouvoir servir sa créature, accepte l'invitation et se met à table. Alors vous savez comment il mangeait à l'époque. Il ne s'asseyait pas sur une chaise, il se couchait sur le coude, sur un coussin, et les pieds en dehors de la table, il mangeait comme ça. C'est important pour la suite. Verset 37. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Voilà une femme qui va nous étonner parce que rien ne pouvait la pousser à rentrer dans cette maison où elle savait que ne l'attendaient que des colibés, que de la moquerie, que des railleries. Elle se serait normalement bien passée de se trouver dans cet endroit-là. Et pourtant, ayant su que Jésus s'y trouvait, elle y va. Et ça, ça doit nous faire réfléchir quels étaient les mobiles de cette femme. Qu'est-ce qui l'a poussée ? C'est très important. On ne sait pas si elle avait déjà rencontré Jésus. Moi, je pense que oui. J'ai même envie de vous dire ce que je pense, l'endroit où elle l'avait rencontré, mais ce n'est pas écrit, donc prenez-le comme une supposition venant d'André, hein. Ce n'est pas l'écriture. Mais je pense qu'au chapitre 5, c'est-à-dire deux chapitres avant, il y a quelqu'un qui se convertit, et ce quelqu'un, il s'appelle Simon. Et ce Simon n'est autre que Matthieu, celui qui a écrit l'évangile de Matthieu. Tout ça, vous pouvez le vérifier, chapitre 9 de Matthieu, il s'appelle Matthieu, c'est les mêmes circonstances, il s'appelle Matthieu, mais là, il s'appelle Lévi. Matthieu, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, bon, vous le savez, parce que j'ai un fils qui s'appelle Matthieu, mais j'aime beaucoup celui de la Bible, qui a deux T, parce que c'est quelqu'un qui connaît bien la Bible, et pourtant, la Bible de l'époque, c'est-à-dire l'Ancien Testament, et pourtant, il est publicain. Publicain, ça veut dire qu'il a un boulot qui n'est pas facile et méprisé et pas toujours très honnête. Peut-être que lui, il était, mais en général, les publicains, vous connaissez l'histoire de Zachée, n'étaient pas très honnêtes. Et quand je dis qu'il connaissait bien la Bible, c'est que quand vous lisez l'évangile de Matthieu, c'est le livre de la Bible, du Nouveau Testament, qui contient le plus de citations de l'Ancien Testament. Une touche l'autre. Donc c'était vraiment un érudit. Mais il y a des érudits qui font des boulots des fois un peu bizarres. Je vous lis ce qu'il dit dans le chapitre 4 de Matthieu parce que c'est trop beau. Pour ceux qui sont allés en Israël avec nous, quand on a fait le voyage, moi j'y suis allé 3 fois, et chaque fois c'est à Capernaum où je me suis régalé le plus. Et Matthieu était de Capernaum justement. Et ce qui se passe au chapitre 4 de Matthieu, il va citer un passage de l'Ancien Testament qui parle de son village, qui parle de Capernaum, qui parle de la région, de Zabulon, c'est la même région. Et il va dire, c'est Matthieu qui parle, donc le fameux Lévi, là où je pense que, il faut me suivre, là où je pense que la pécheresse est allée. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplit, nous y voilà, Matthieu parle de l'Ancien Testament, ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, le peuple de Zabulon et de Nephtali, l'endroit où il y a Capernaum, de la contrée voisine de la mer, mer de Galilée, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentils. Ce peuple, écoutez bien, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Ça, ce verset, il est recopié dans la chambre de Matthieu. Il est souligné en rouge. Il sait, parce qu'il est un peu chauvin, comme la plupart d'entre nous, il sait que son pays, il y a une lumière qui s'est levée, c'est le Messie. Et le Messie doit venir à Capernaum. Le Messie doit venir à Zabulon, Nephtali. Le Messie doit venir en Galilée. Et qu'est-ce qu'il se passe dans le boulot qu'il fait ? Il entend partout qu'un certain Jésus de Nazareth accomplit des miracles. Il a ressuscité la fille de Jaïrus, c'est à Capernaum. Il a guéri la femme qui avait des pertes de sang, qui a touché son manteau, c'est à Capernaum. Il a guéri le démoniaque dans la synagogue, c'est à Capernaum. En fait, la plupart des miracles de Jésus se sont passés à Capernaum. Et lui, il travaille là. Et en plus, il travaille au poste des Romains, à l'entrée et à la sortie de la ville. Il est au courant de tout. Et alors qu'il médite sur ces choses, je vais aller un peu plus vite, alors qu'il médite sur ces choses, voilà que Jésus arrive vers lui. Et là, il a un choix à faire. Jésus lui dit, plie ta caisse, viens et suis-moi. Et là, Matthieu a compris. Ce que je pensais, c'est la réalité. Il est vraiment le Messie. Et il suit Jésus. Arrivé chez lui, il va vite au coffre, s'il en a un, il va vite au porte-monnaie, il sort tous ses sous et il fait un banquet pour Jésus. Il fait un festin pour Jésus. Et qui il invite dans ce festin ? Vous lisez tout ça, c'est dans Luc chapitre 5 ou Matthieu 9. Il invite tous les pauvres gens qu'il connaissait de Capernaum. Les pauvres gens, les pêcheurs, les prostituées, les publicains, tous ceux que le monde ne voulait pas. Tous les cabossés. Alors, si tu es un cabossé ce matin, comme ça a été dit par David, sache que le Seigneur Jésus ne te met pas dehors. Sache que le Seigneur Jésus t'attend pour t'apporter une consolation, un bienfait, une guérison, une délivrance. Je suppose que cette femme a été invitée. Bon, ça c'est moi qui le dis. Et que là, elle a entendu des choses merveilleuses. Elle a entendu, par exemple, je ne sais pas, mais je suppose, encore une fois, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et cette femme, elle a sa conscience qui est travaillée. Elle a une vie dissolue, elle a une vie de péché. Peut-être que ce n'est pas que de sa faute parce qu'elle était obligée, j'en sais rien. Mais cette femme est travaillée, sa conscience lui reproche beaucoup de choses. Et cet envoyé de Dieu, contrairement aux pharisiens dont on parlait tout à l'heure, lui s'intéresse à elle. Lui dit des belles choses. Lui ne la mettra pas dehors. Lui a de l'amour. Je veux le revoir. Et joignant le geste à la parole, elle va chez elle. Donc toute cette action que nous avons lue, elle est préméditée. Elle va à sa maison. Elle prend ce qu'il y a de plus précieux dans sa maison, c'est-à-dire un vase d'albâtre plein de parfums. C'est ce qu'elle a. Peut-être qu'elle économisait pour sa retraite, j'en sais rien. Mais c'était peut-être à l'époque ce qu'on faisait pour mettre un peu des sous de côté. Et elle franchit tous les obstacles dont je parlais tout à l'heure. Le regard du pharisien, tous ces gens qui la connaissent, parce qu'il est dit une femme de la ville. Alors quand on va à Capernaum et qu'on regarde les ruines, franchement, c'est quoi, un village de maximum 2000 habitants. Cette femme était connue de tout le monde. Tout le monde connaissait sa vie. Donc, qu'est-ce qui la pousse ? Je reviens à ma question. C'est mobile. Je vais vous le dire. Elle ne voit que Jésus. Elle ne voit pas le pharisien. Elle ne voit pas ce qui serait susceptible de la juger, de la condamner. Elle voit Jésus. Et voyant Jésus, elle franchit tout. Et ça, ça peut être une aide pour nous. Ça peut être une aide pour nous. Si nous fixons nos regards sur le Seigneur Jésus, si nous nous appliquons à confesser, comme nous l'avons fait ce matin par les chants et par nos prières de confession, de repentance, d'amour pour le Seigneur, nous aurons assurément la victoire sur le regard que nous pouvons porter sur les autres. Parce que souvent, nous sommes coincés. Nous sommes coincés et je voudrais insister là-dessus. Prions les uns et les autres afin que, finalement, dans nos cultes, nous puissions venir tels que nous sommes, tels que nous sommes devant le Seigneur avec notre cœur. Et si le vase d'albâtre correspondait au cœur de cette femme? Et si la chose la plus précieuse que vous avez, que j'ai, c'est le cœur, mon cœur que j'offre au Seigneur? Vous voyez, là, on ne parle pas de porte-monnaie, on ne parle pas de niveaux sociaux. On a tous un cœur. On a tous la capacité, la possibilité d'offrir à Jésus quelque chose de beau et de précieux. C'est notre cœur. Et si le vase d'albâtre de cette femme, c'était son cœur? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Et peut-être que ça peut nous aider à venir tout simplement. Oui, pleurer sur notre péché. Et alors, si quelqu'un parmi nous, au culte, pleurait sur son péché, qu'est-ce que ça peut faire? On n'en a pas tous. Vous savez, je me souviens, il y a 25 ans, on était dans une église, peut-être tu t'en souviens, Olivier, à Vauvert, et le culte se déroulait normalement, et voilà tout à coup qu'un jeune frère se lève, en larmes, et voilà que devant toute l'assemblée, il confesse son péché. Ce n'était pas facile. Il avait couché avec sa fiancée était enceinte, et voilà qu'ils étaient jeunes, ils faisaient partie de mon groupe de jeunes. L'assemblée a un froid, plus personne n'osait rien dire. Quand le cœur est pris comme cela, par la repentance, venir devant le Seigneur et lui dire tout ce qu'on a sur le cœur, il faut le faire. Je sais qu'il y a des choses qui peuvent se dire, d'autres qui ne peuvent pas se dire. Il faut faire preuve de sagesse, mais soyons libres. Ce frère a été libre et il a reçu toute la consolation d'une bonne partie de l'assemblée. Je ne dirais pas toute, parce qu'il y a toujours quelque part des pharisiens, mais une bonne partie de l'assemblée a soutenu ce jeune couple et l'a aidé à cheminer avec leur malheur. Si je dis ça, c'est pour que nous soyons libres vraiment et que nous puissions, comme cette femme, venir devant le Seigneur tel que nous sommes. Et voyez, elle était remplie d'humilité, elle était remplie d'humiliation. Elle se tient derrière, elle a du respect pour le Seigneur. Elle ne se tient pas devant, elle se tient derrière et elle pleure. La repentance dont je parlais tout à l'heure. C'est cela qui va faire dire à Jésus, cette femme, m'aime, car il lui a été pardonné, beaucoup pardonné. Alors là, on peut discuter un moment là-dessus, parce que est-ce que le péché de cette femme était plus grand que celui du pharisien ? Lui, en tout cas, ne voyait pas son péché. Mais je pense que devant Jésus, ils devaient tous les deux 500 deniers. Ça, c'est ce que je pense. Je pense qu'ils étaient tous les deux à égalité, et comme nous sommes d'ailleurs tous à égalité devant le Seigneur. Et nous n'avons pas à pointer du doigt qui que ce soit. Et je le dis parce que dans notre assemblée, j'en ai fait plusieurs d'assemblées, mais quand même, dans notre assemblée, je ne ressens pas qu'il y ait des doigts pointés. Il y en a peut-être, mais je ne le ressens pas et je le dis bien fort et je suis heureux d'être dans une assemblée où l'on ne montre pas du doigt, où l'on ne condamne pas et où l'on ne fustige pas celui qui s'est peut-être trompé un jour ou un autre. Et je pense qu'il nous faut continuer dans cette voie parce que c'est une voie de bénédiction du Seigneur. On pourrait dire encore beaucoup de choses, mais je vois que l'heure tourne et c'est bientôt midi. Juste un mot de cet homme pour terminer. Jésus, je ne vais pas développer la parabole, elle est assez simple à comprendre. Cet homme, je l'ai dit, aurait dû réagir différemment. Et peut-être que nous aussi, c'est une leçon pour nous. Lorsque nous voyons des choses que nous ne comprenons pas, nous devons voir en Jésus celui qui pardonne, celui qui aime, celui qui relève, celui qui est l'émanateur de la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu est immense et Jésus en était le vecteur. Il aurait dû voir, il connaissait l'Ancien Testament, il connaissait si mon peuple sur qui est invoqué mon nom prie, s'humilie, cherche ma face, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché. Il connaissait tout ça, ce pharisien. Il aurait dû se référer au cœur de Dieu, à la miséricorde de Dieu. Mais il n'a pas eu cette intelligence de cœur de le faire. Et s'il avait simplement dit « Oui, Dieu est en Christ, manifestant sa miséricorde et sa bonté et son pardon », alors j'y crois. Comme ça aurait été différent. Comme ça aurait été différent pour lui et peut-être pour tout le village de Capernaum. Mais Jésus nous montre que cet homme-là, un peu comme dans l'autre parabole, est reparti. Vous savez, quand Jésus nous donne la parabole de l'autre pharisien, vous savez, celui qui regarde le publicain, qui se frappe la poitrine et qui dit « Aie pitié de moi qui suis un pécheur », et l'autre, il dit « Mais moi, je donne la dîme de tous mes revenus », etc. Il repart dans sa maison, non justifié, cet homme, ce pharisien, alors que le pécheur repart dans sa maison justifié. Peut-être qu'il y a des gens qui iront en enfer alors qu'ils connaissent la Bible. Peut-être qu'il y a des gens qui iront en enfer parce que ce sont des gens d'église. Peut-être. Moi, je ne le sais pas. Dieu le sait. Mais en tout cas, cette parabole du pharisien qui montrait tout d'un homme religieux nous montre qu'il est rentré dans sa maison non justifié. Oh, chers amis, restons sur cette femme, ne restons pas sur ce pharisien, restons sur cette femme qui... Ah mais oui, je suis dans Matthieu, alors que c'était dans Luc. Jésus est sensible, et je termine là-dessus, Jésus est sensible sur ce que cette femme a fait, au-delà de ce que le narrateur pouvait dire. Le narrateur a dit, elle a baisé ses pieds. Et Jésus, quand il reprend, il dit, elle n'a cessé de baiser mes pieds. Vous voyez, Jésus rajoute. C'est-à-dire qu'il est sensible à ce que les gens qui viennent auprès de lui avec leur cœur, avec leur repentance, avec leur amour, il est sensible ô combien à ce genre de mouvement. Eh bien, si Jésus est sensible à cela, faisons-lui plaisir, chers amis. Et chaque fois que nous le pouvons, venons, que ce soit dans nos cultes personnels, dans nos chambres, lorsque nous avons fermé la porte, ou en assemblée, lorsque nous nous retrouvons ensemble, venons à lui tel que nous sommes. Venons à lui avec notre cœur et répandons devant le Seigneur notre reconnaissance, notre repentance peut-être. Vous savez, Jérémie, l'autre jour, il a commencé le culte, vous vous rappelez de ça, on n'est pas habitué à ça à l'Assemblée chrétienne, par 3 minutes de repentance. 3 minutes où on se trouvait devant Dieu à confesser nos péchés. On n'est pas habitué à ça. Mais je pense que c'est le Saint-Esprit qui poussait Jérémie à faire ça. Et je pense que nous devons être sensibles à ce genre de choses. Et si le Saint-Esprit nous conduit à passer 3 minutes sur 2 heures, 3 minutes à examiner nos cœurs devant le Seigneur et à confesser nos péchés, nous devons le faire. Et nous devrions, la prochaine fois que ça se produit, mettre en pratique ce qui vient de nous être dit. Et pourquoi pas confesser nos fautes ? Je pense. On termine par la prière, si vous voulez. Seigneur, merci parce que ta parole est vivante, ta parole est actuelle, ta parole nous a parlé ce matin. Ta parole, Seigneur, nous a montré que nous pouvons venir à toi, mais vraiment, vraiment, librement. Et que tu as dit, je ne remettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alors Seigneur, merci de nous y inviter. Et je te prie pour tous ceux qui sont un peu malmenés en ce moment, même beaucoup malmenés, qui ne le disent peut-être pas, mais qui ont un gros fardeau sur le cœur dans notre assemblée. Je te prie Seigneur de les encourager. Je te prie Seigneur de leur montrer qu'ils peuvent, dans leur désarroi, dans leur tristesse, dans leur mal-être, venir à toi et recevoir de toi, Seigneur, une belle consolation. Recevoir de toi l'amour que tu... la certitude de l'amour que tu as pour eux. Seigneur, merci de venir consoler, merci de venir guérir, merci de venir délivrer. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Tu peux venir, David ? Alors, je terminerai juste avec ça. Je ne ferai pas d'appel parce que, en l'absence de nos responsables, je ne voudrais pas prendre trop de liberté. Mais je fais quand même un appel. Avec David, si vous le voulez, si vous le sentez, nous nous tiendrons là à discuter après le culte, tous les deux. Et si quelqu'un avait vraiment un gros, gros fardeau, qu'il ne reparte pas et qu'il veuille le partager, ou qu'il veuille donner son cœur au Seigneur, comme cette femme est venue, eh bien, vraiment, ne repartez pas. Et dans la liberté et dans l'amour du Seigneur, venez et on priera pour vous. Quel que soit votre besoin, quel que soit votre fardeau, n'hésitez pas. C'est ça que je voulais dire. Vous savez, avec David, c'est une longue histoire. Tous les deux, parce qu'il y a une vingtaine d'années, on travaillait ensemble et j'étais un peu appris le boulot, un peu. Bon, après, l'élève a dépassé largement le maître, enfin le maître, le précepteur, on va dire. Mais on a travaillé ensemble au Crédit Agricole de Marguerite, c'est ça. Hein, et vraiment, on a de bons souvenirs ensemble. Donc, on peut continuer à travailler un peu, mais pour le Seigneur, là, ce coup-ci.
C'est mieux que pour le Crédit Agricole. Merci beaucoup pour ces encouragements à venir au pied de Jésus. Hein. Je crois qu'on est tous dans cette attente-là. Peut-être que l'équipe de louange, vous pouvez revenir.